Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Vegs consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale. Vous pouvez nous retrouver le quatrième lundi de chaque mois à 19h et en podcast sur le site de la radio radiocampustour.com. Alors l'émission du mois d'août est consacrée comme au mois de juillet à la diffusion de l'enregistrement d'une des conférences données lors de la Vegan Place de Tours qui s'est tenue le samedi 18 juin dernier. La conférence dont nous diffusons une grande partie ce soir est consacrée au loup, ce bel animal qui est revenu en France à l'aube des années 90 à partir de l'Italie et qui rencontre malheureusement assez souvent des problèmes de cohabitation avec les activités humaines. La conférence est donnée par Annie Moreau, qui est une membre de l'association Férus, une association nationale qui travaille à la défense et à la sauvegarde des grands prédateurs en France, le loup, mais aussi l'ours et le lynx. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'association, c'est sur ferus.fr. Donc Férus, c'est F-E-R-U-S. Alors je vous souhaite une très bonne écoute.
Merci d'abord à la Vegan Place de Tours de laisser ce temps de parole pour évoquer la question du loup. Alors très rapidement, je me présente, je suis Annie Moreau, je représente ici l'association Férus, qui est une association nationale de protection des grands prédateurs, en tout cas des trois qui sont présents sur notre territoire, l'ours, le loup et le lynx. On a des objectifs qui sont bien sûr la préservation et la conservation de ces trois espèces sur le territoire. Et rapidement, quand l'association est née, donc elle est née, d'abord il y a eu le groupe Loup France qui s'est créé dès que le loup est arrivé en France au début des années 90. Et puis le groupe Loup France a fusionné avec Artus quelques années plus tard. Mais tout de suite, évidemment, on s'est rendu compte que la protection du loup passait aussi par son acceptation et par son acceptation par le milieu pastoral. Donc on a commencé à travailler dans cette direction à travers des programmes et notamment un programme d'éco-bénévolat dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis sinon, on a des actions un petit peu classiques d'associations en termes d'animation, de conférences, de stands. On a une revue et puis on fonctionne, je disais qu'on est une association nationale, mais on fonctionne en réseaux régionaux. Et donc il y a un réseau local sur la région Centre-Val-de-Loire que j'anime bénévolement. Alors ça, c'est un petit florilège des questions, ou plutôt des remarques qu'on entend régulièrement sur la réintroduction du loup, sur le fait qu'il y en a trop, qu'il va manger tous les cerfs, que du coup, il n'y aura plus du tout de pastoralisme en France et que c'est dangereux. Parfois, on entend aussi l'inverse, des gens qui sont vraiment fanas du loup. Et en fait, on va voir là, au fil des prochaines slides, que ce n'est pas un animal extraordinaire, c'est un animal comme un autre, mais qu'on ne peut pas l'accuser de tous les maux qu'on entend régulièrement. Alors, il y a de l'animation, c'est bien. Je ne vais pas trop vous refaire le loup, sa vie, son œuvre, mais ça me semblait quand même important de revenir sur quelques éléments de biologie. Parce que ce sont ces éléments qui vont expliquer son retour en France et pourquoi il progresse petit à petit et pourquoi il arrive jusqu'à nous. Je vais vous laisser lire pendant que la musique passe, si vous voulez. Voilà, le camion redémarre. C'est bon.
10 ans, c'est pas...
Non, c'est pas une longévité énorme. En captivité, il peut vivre un petit peu plus longtemps que ça, mais effectivement, à l'état sauvage, c'est rude. Oui. Et la longévité n'est pas énorme. Alors juste pour revenir là-dessus, c'est pas un animal gigantesque. 1 mètre 50 de long, hauteur au garrot, jusqu'à un petit mètre, 35 kg pour les mâles. Voilà, il y a des chiens qui sont beaucoup plus gros que ça, c'est à peu près la taille d'un berger allemand. Perfectionné parce qu'il a une très bonne vue, un très bon odorat et il a cette capacité d'avoir une bonne vue crépusculaire également qui lui permet notamment de se déplacer, de chasser de nuit. La chose sur laquelle je voulais revenir, c'était certaines caractéristiques, puisque sur la photo d'après, la diapo d'après, on va voir qu'il y a des confusions avec les chiens. Caractéristique du loup européen, celui qui vient d'Italie, c'est la marque noire, le trait noir sur les pattes avant. Et puis, caractéristique du loup en général également, son masque facial, la taille de la queue qui est assez courte et des oreilles plutôt courtes. on va voir qu'avec les chiens, la confusion peut être tout à fait possible, avec notamment des chiens loups tchèques, les chiens de Sarlos, qui sont des races qui commencent en plus à être de plus en plus répandues. Alors ce matin, pour la petite histoire, il y a une journaliste qui est venue me voir sur le stand. Donc il y a une journaliste qui est passée sur le stand et puis elle me dit « Est-ce que vous savez qu'il y a eu un loup qui a été observé aujourd'hui à Saint-Cyr-sur-Loire ?» Je dis « Non, je ne suis pas au courant. » Alors elle avait une info, des moutons attaqués à Fondette également. Alors elle me dit « On attend de savoir, la gendarmerie est prévenue, j'attends d'avoir des infos, je vous rappelle si j'en ai. » Je suis allée voir sur le site de la Nouvelle République, là, il y a une heure. Donc en fait, ce n'était pas un loup, c'était un chien. Mais la confusion est effectivement très très facile. Quand on voit un animal passer de manière rapide, dont ce qui sert à distinguer, si on a le temps, c'est cette marque noire, ce masque labial blanc qui est quand même bien marqué sur le chien, c'est un petit peu plus étendu, la queue qui va s'arrêter à peu près au milieu de la patte, et puis les oreilles également. Donc évidemment, en général, le chien ou le loup ne reste pas planté comme ça le temps qu'on l'observe. Mais les chiens, c'est un vrai souci parce que, c'est ce que je viens de vous raconter. Régulièrement, moi j'habite à Orléans, à côté d'Orléans, à la petite commune de Sandillon, il y a un chien loup tchèque qui se sauve et à chaque fois, il y a des gens qui alertent la presse en disant « il y a un loup à côté d'Orléans ». Non, c'est toujours ce fameux chien. D'ailleurs, les services de l'OFB n'en peuvent plus. Ils lui ont demandé de mettre un gros collier orange parce qu'ils n'en peuvent plus qu'il y ait des confusions avec les chiens. Donc non seulement il y a des confusions, mais aussi les chiens font également des dégâts. Donc ce qui est le cas là, à Fondette, le chien a effectivement attaqué et tué des moutons. Donc voilà pour l'aspect morphologique du loup. Je reviens vraiment très très rapidement sur sa répartition. Simplement dire qu'il est présent surtout dans l'hémisphère nord. Et puis qu'en Europe, il y a des bonnes populations qui commence à gagner un petit peu vers nos pays occidentaux. Rapidement aussi, je reviens sur la question de la meute, mais c'est important pour connaître la suite de l'histoire et la suite du retour du loup chez nous. Donc la meute, c'est quoi? C'est une famille, en fait. Hein. Souvent, on pense la meute, plein de loups agrégés, etc. Non, pas du tout. En fait, le loup, c'est c'est le couple de loups qui va se reproduire, le couple alpha, qui est le seul à se reproduire dans la meute, et puis les petits qu'il va avoir dans l'année. Donc actuellement, là, il y a des louveteaux qui viennent de naître dans les tanières, là, c'est en mai-juin, et éventuellement les jeunes de l'année précédente qui n'ont pas encore pris leur envol. Donc grosso modo, en France, une meute de loups, ça va être 2, 6, 8 individus exceptionnellement. On a pu observer sur le massif alpin des meutes de 10 individus. Ça reste assez rare, mais c'est possible. Rien n'est jamais dans la norme dans le milieu animal, il y a toujours des exceptions. Et ce couple alpha, donc, est le seul à se reproduire. C'est lui qui assure la cohésion de la meute, hein, qui organise un petit peu sa vie. Et la vie en meute permet de chasser des proies plus grosses, évidemment. Permet aussi la défense du territoire à plusieurs et l'éducation des jeunes, puisque quand certains partent chasser, il n'est pas rare que le grand frère ou la grande sœur de l'année précédente reste avec les louveteaux quand ils sont encore petits pour surveiller que tout se passe bien. La question du régime alimentaire, bien sûr, c'est important. Essentiellement carnivore, essentiellement des ongulés sauvages, donc de préférence, hein, quand il a la possibilité entre moutons ou ongulés sauvages, surtout si les moutons sont protégés, réellement, il va préférer s'attaquer à la faune sauvage. Cela dit, il n'est pas très très difficile. S'il n'y a pas de chevreuil à son menu du jour, il va très facilement se contenter de petits mammifères. Renard également, il est un super prédateur, donc ça veut dire qu'il mange d'autres prédateurs. Et puis des insectes, voire des fruits. Il y a quelques années, un loup a été percuté par un train. Et quand l'autopsie a été faite, on s'est rendu compte qu'il avait du raisin dans l'estomac. Alors c'était peut-être un loup déjà un peu affaibli, voilà peut-être pourquoi il s'est trouvé percuté, il n'a pas eu le réflexe de fuir, et tout ce qu'il avait à trouver, c'était du raisin. Donc voilà, il peut vraiment trouver tout ce qu'il peut. Et bien sûr, là d'où vient la clé du souci de son retour en France, c'est la question du bétail domestique, qui, il est vrai, il ne va pas hésiter à attaquer. Alors on nous dit souvent qu'il y a trop de loups et que du coup les proies vont disparaître, le gibier va disparaître. Ça c'est un discours qu'on peut entendre. comme tous les grands prédateurs, évidemment, il ne va pas faire disparaître ses proies. Il n'a absolument aucun intérêt à le faire. Par ailleurs, la reproduction s'adapte à la quantité de proies disponibles. Donc, une année avec peu de proies, eh ben, la reproduction sera faible. Il est vrai que sur le mouflon, il y a eu une baisse des effectifs de mouflons sur le massif alpin au moment du retour du loup. Cependant, vous le savez peut-être, le mouflon n'est pas un animal qui a grand-chose à faire sur le massif alpin. Il avait été réintroduit par les fédérations de chasse, donc uniquement pour le loisir de chasse. Et c'est vrai qu'il n'est pas très adapté à la neige et notamment à la fuite en conditions difficiles face au loup. Donc les effectifs ont en effet énormément chuté et puis ça s'est stabilisé maintenant et ça remonte légèrement. Voilà, le loup ne réussit pas non plus à tous les coups, il rate même assez souvent, alors une fois sur deux, un peu plus, on ne sait pas trop, c'est un petit peu compliqué à savoir, mais en tout cas les observations montrent qu'il ne réussit pas à tous les coups. Et ce qui est intéressant par rapport aux ongulés sauvages, en général les forestiers aiment bien quand le loup ou un autre grand prédateur revient dans une forêt, c'est parce qu'il va disperser ce gibier qui, quand il n'y a pas de prédateur, se reproduit de plus en plus, va abroutir les jeunes pousses des arbres, va avoir un impact très fort sur la végétation et un impact négatif sur la végétation. Donc en général, les forestiers sont contents parce que le loup non seulement va diminuer légèrement la population des ongulés, donc ça va brouter un petit peu moins, mais surtout les ongulés vont prendre des habitudes différentes. Ils vont être plus alertes, donc ils vont rester moins longtemps la tête penchée pour brouter. Ils vont régulièrement la lever. Ils vont être plus mobiles également. Donc ça a un impact aussi bénéfique sur l'état des forêts, le retour des grands prédateurs. Il y a un exemple qui est très connu, c'est celui de Yellowstone, hein, vous en avez sûrement entendu parler, le loup est revenu, et il y a eu toute une cascade derrière d'espèces qui sont revenues, les arbres ont repoussé, du coup les castors sont revenus, du coup dans les barrages faits par les castors, bah, les frayères se sont rétablies, il y a du poisson, les arbres sont revenus, les oiseaux aussi, enfin, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire d'observer. Juste la question du surplus killing, parce que ça c'est quelque chose qu'on nous objecte quelquefois quand on défend le loup, parce qu'on nous dit le loup il tue que ce qu'il mange, mais c'est pas vrai, parfois il tue plus, il va tuer des moutons et puis il va pas les consommer. Alors c'est vrai, ça peut arriver, il y a quand même chez le prédateur un instinct d'attaquer quand il y a une fuite. Alors normalement le prédateur il attaque du gibier sauvage. Quand il y a une hare de biche, tout le monde prend la fuite, ça excite le loup et la meute va courir après une biche. Et puis en général, bah, ils vont s'attaquer à celle qui traîne un peu, éventuellement qui boite. Voilà. Et puis tous les autres sont partis. Sauf que dans le cas du bétail domestique, bah, le bétail domestique, d'abord il a été sélectionné pour être, bah, il faut le dire, un peu moins agile face à ce genre d'événement. Et puis surtout, bah, parfois, il n'a pas énormément d'espace pour se sauver. Et là, un loup qui arriverait à entrer dans un enclos, effectivement, l'excitation aidant de voir les moutons s'agiter, essayer de fuir, il peut arriver qu'il y ait ce phénomène qui est forcément encore plus désagréable pour l'éleveur, puisque le loup n'a même pas mangé les moutons qu'il a tués. Donc on a vu tout à l'heure que la meute vivait sur un territoire. Ça c'est important aussi parce que ça va impacter la façon dont il va se disperser dans, et trouver des nouveaux territoires. Donc il a surtout besoin de tranquillité, de nourriture, donc si possible des ongulés sauvages. En France, ce n'est pas des territoires gigantesques, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce territoire ne vivra absolument que la meute. Elle va le surveiller et écarter tous les individus qui tenteraient de s'en approcher, par du marquage olfactif, des crottes, par aussi une surveillance régulière et éventuellement une course, une attaque d'un individu qui tenterait de s'approcher. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une surpopulation de loups sur un territoire, puisque sur 200 à 400 km², on aura toujours que 2, 4, 5, 6 loups, suivant la période de l'année, avant ou après les naissances. Et puis surtout, quand un loup et un territoire est occupé, les autres loups doivent aller ailleurs pour en réoccuper un autre. Donc il va y avoir un phénomène de dispersion et surtout pas un phénomène d'agrégation d'une multitude de loups sur l'espace. Le massif alpin étant quasiment entièrement occupé maintenant, il est normal que le loup en sorte et commence à coloniser de nouveaux territoires pour trouver son territoire propre. Donc ça, ce sont les jeunes qui, une fois qu'ils deviennent adultes, 2-3 ans, la maturité sexuelle du loup, c'est 3 ans, vont quitter la meute et à ce moment-là, vont devoir partir potentiellement assez loin, si les territoires à côté sont déjà occupés par d'autres meutes. Voilà pourquoi on peut retrouver assez facilement et assez rapidement des loups loin du massif alpin. Alors je dis rapidement, cela dit, le loup est arrivé en 1992. Donc ça fait quand même un petit moment qu'il arpente le territoire et qu'il aurait pu sortir des Alpes. Il est taillé pour la course, hein. Il peut courir pas forcément vite longtemps, mais il peut trotter longtemps et faire une centaine de kilomètres en une nuit, par exemple, pour essayer de trouver un nouveau lieu. Les zones habitées, les infrastructures, les autoroutes, ça ne le dérange pas. Il est vraiment très très dynamique, il traverse les fleuves. Alors sur les ponts aussi, il y a des images qui montrent qu'il ne va pas forcément à la nage, mais il attend que ça se calme et il traverse les ponts, les voies ferrées, etc. Alors je dis que c'est facile, mais en fait non, c'est quand même une période assez dangereuse pour ces jeunes loups qui quittent leur meute après avoir vécu en groupe. Donc là, ils se retrouvent tout seuls. Donc pour chasser, forcément, c'est plus compliqué, c'est des plus petites proies. En plus, ils sont très mobiles, donc ils peuvent traverser des routes et il y a quand même de la mortalité par des collisions avec les voitures. Et puis, surtout, il y a un risque de se rencontrer le territoire d'une autre meute. Donc ça, c'est ce qui est arrivé, par exemple, à ce loup M15 qui a été suivi. Donc il avait été capturé, blessé et capturé ensuite en Italie. Et du coup, les personnes, les scientifiques qui l'ont récupéré ont choisi, avant de le relâcher, de lui mettre un collier émetteur, justement, pour voir un peu quel était son parcours. Et ça a été très impressionnant, puisqu'il a fait plus de 1000 km depuis l'Italie, en faisant des petites circonvolutions comme ça, pour arriver jusque dans le massif du Mercantour, où malheureusement, quelques mois après son relâché, il a été retrouvé mort, et on suppose qu'il a été attaqué par un loup alpha d'une meute sur un territoire où peut-être il a essayé de s'installer, ou qu'il a traversé de manière imprudente. Donc une période dangereuse pour les jeunes, la dispersion. Ça, je vais aller assez vite aussi sur les causes de la disparition du loup en France. On les connaît, mais c'est essentiellement la chasse, hein, et le piégeage. Il y a eu toute une période jusqu'au 18e, un petit peu après, où on avait des primes pour éliminer le loup, ou rapporter une patte ou une queue de loup, ça pouvait rapporter l'équivalent de plusieurs jours de salaire. Donc forcément, c'était plus intéressant de chasser le loup que de continuer certaines activités agricoles. Donc disparition, on suppose, un peu avant la Seconde Guerre mondiale en France, il y a eu de manière épisodique, de temps en temps, des observations peut-être de loups après qui seraient restés ponctuellement. En tout cas, disparition a priori, donc avant la Seconde Guerre mondiale, pas en montagne. Hein, les derniers loups en France étaient dans le Poitevin, dans le Limousin, donc dans les zones de plaine. Et puis, il y a eu aussi des effets de recul des forêts, donc raréfaction des grands ongulés, les activités agropastorales donc, qui ont gagné sur la forêt, et toujours chez nous, ce rejet culturel, la peur du loup, toujours. Donc voilà, plein de facteurs qui ont fait que le loup a totalement disparu du territoire français pendant plusieurs décennies, puisqu'il n'est revenu, on le disait tout à l'heure, qu'au tout début des années 90. Un retour naturel, j'insiste bien là-dessus. On le sait, nous, mais on entend encore régulièrement, même des politiques qui, au cours de déclarations, expliquent que le loup a été réintroduit en France. Non, pas du tout, il est revenu d'Italie. Et ça se comprend assez facilement quand on regarde la carte d'Italie. Donc, protection du loup depuis les années 70. Donc, on a vu juste avant comment le loup fonctionnait pour gagner des nouveaux territoires. Donc, il a gagné des nouveaux territoires. Et puis, finalement, il a passé la frontière franco-italienne pour arriver dans le Mercantour. C'est à la faveur d'un comptage de chamois dans le parc du Mercantour que les gardes, tout à coup, ont vu un animal dans leur jumelle qui n'était pas du tout un chamois, mais qui était plutôt un canidé. Et ont pu attester que le loup était revenu. On suppose que très certainement, il y a déjà eu des incursions avant de loups. Mais voilà, là, c'est la date officielle. Donc, il y avait cette protection en Italie qui a aidé. Moins d'agriculture, donc la forêt est revenue. Et puis, il y a eu des programmes de réintroduction d'ongulés aussi pour la chasse. Donc, forcément, il y avait du territoire pour se cacher. Il y avait à manger. Le loup a trouvé intéressant de continuer à circuler sur ce nouveau territoire qu'il venait de découvrir. Et puis l'espèce étant protégée en France, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis avec son arrivée. On va voir évidemment après que ça a été plus compliqué que ça. Et puis j'ai noté qu'il revient aussi en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, donc il continue à gagner. En Allemagne, ce sont des loups qui viennent de Pologne. Alors, il est protégé par plusieurs textes, hein, des textes européens, la directive Habitat, la convention de Berne, et puis qui ont été traduits en droit français. Donc en droit français aussi, il y a des arrêtés ministériels qui protègent le loup avec beaucoup d'autres mammifères. La convention de Washington aussi, et il est considéré comme vulnérable sur la liste des espèces menacées en France. Cependant, aux textes européens, il y a des dérogations, et ces dérogations qui sont utilisées actuellement pour effectuer des tirs de loups, dont on va parler après. Donc pour qu'il y ait des dérogations, il faut qu'il y ait des dommages sur les troupeaux. L'intérêt de la sécurité publique avec le loup, c'est pas ça, puis on sait très bien qu'il n'attaque pas l'homme. Et aussi, alors la dérogation est acceptée si ça ne maintient pas, si ça ne pose pas de soucis au maintien de l'espèce. Là, il y a à discuter, puisqu'on verra que les tirs de loups sont quand même assez importants. Les chiffres de situation du loup là en France, donc c'est des estimations qu'on a eues en 2021. Les estimations, les comptages se font pendant l'hiver parce qu'il y a la neige et que c'est plus facile pour voir les traces. On ne devrait pas tarder là dans les semaines qui viennent à voir les chiffres mis à jour. En tout cas, c'est environ 620 loups, donc ça progresse doucement. 106 meutes, parce que c'est quand même un petit peu difficile d'avoir une estimation d'individus. Donc plus souvent, on parle de meutes. Les Allemands comptent uniquement en meutes. 125 ZPP. Alors les ZPP, ce sont les zones de présence permanente. Ce sont les zones dans lesquelles la présence du loup a été attestée deux hivers consécutifs. Donc ça veut dire qu'on suppose qu'il commence à s'installer. Pas forcément une meute, hein, ça peut être un individu seul, mais il reste un petit peu sur ce territoire-là en attendant de trouver le compagnon ou la compagne qui voudra bien passer. Et donc on voit qu'effectivement, il y a une extension en dehors du massif alpin pour arriver dans les zones de plaine. Dernier épisode en date, vous en avez certainement entendu parler dans la presse, c'est la Bretagne, où le loup a été observé en ce début d'année. Mais vous avez compris avec tout ce qu'on a vu avant que c'est absolument pas étonnant, que c'est la dynamique normale de l'espèce et que ça doit absolument pas nous inquiéter. Le loup auparavant, hein, avant qu'on l'extermine, était présent absolument sur l'ensemble du territoire français. Chez nous, alors donc pas de loup à Saint-Cyr-sur-Loire visiblement, en tout cas pas aujourd'hui, mais des données quand même depuis 2019. Hein. Des circulations de ces fameux jeunes hein, qui sont en train de disperser, qui cherchent un territoire. Donc à chaque fois, ce sont des observations visuelles qui ont été retenues par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui assure le suivi de l'espèce et qui est spécialisé pour dire si c'est du loup ou pas. Alors, observation visuelle, moi je note quand même qu'il n'y a jamais eu de traces ADN qui aurait vraiment permis là une certitude complète, et puis aussi de tracer la lignée du loup. C'est toujours intéressant, bon ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de crottes de retrouver, de restes de proie ou de cadavres de loup. Donc pour le moment on en est avec ces observations. L'OFB indique quand même que entre mi-2016 et mi-2021, ils ont eu 160 signalements. Donc un petit peu comme ce qui s'est passé ce matin à Saint-Cyr-sur-Loire, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent avoir vu des loups, qui les sollicitent, et à chaque fois, eux, ils vont vérifier sur le terrain si c'est vrai ou pas. Et sur tous ces signalements, ils n'en ont retenu que 8 à tester loups. Et les dernières observations en date, donc c'est le sud de l'Indre, vers Ruffec, au mois de décembre. Et puis juste avant, c'était en Touraine, hein, à côté de Tours, là, Saint-Mars-la-Pile, au mois de novembre. Alors, comment on fait le suivi des populations? Donc, je vous disais, c'est le réseau Loup-Lynx de l'Office français de la biodiversité qui est chargé en France de faire ce suivi, qui s'appuie sur un réseau d'à peu près 1000 bénévoles. Donc sur toute la France, sur toutes les zones où il y a du loup. Donc nous, en région centre, on n'est pas encore concerné. Il n'y a pas encore de réseau loup-lynx concerné. Ces bénévoles suivent une formation et puis ensuite, ils ont des parcours réguliers à faire dans des zones où on sait qu'il y a des loups. Alors ça marche aussi avec le lynx et sur l'ours dans les Pyrénées. Hein, il y a le même type de réseau pour aller voir si on repère des traces. Il y a aussi des prélèvements de crottes. Comme là, les observations visuelles dont on parlait, les indices de présence, les traces. Alors les traces, c'est intéressant quand on a des marquages sur plusieurs dizaines de mètres qui permettent de voir que c'est effectivement du loup, parce que la confusion est facile avec le chien. Sauf que le chien, lui, ne sait pas marcher à la fameuse mode que le qu'on connaît. Le loup, lui, va être capable, de la façon dont ses pattes, en gros, sont attachées sur son thorax, de mettre une patte dans l'empreinte de l'autre patte et de ne faire qu'une seule ligne. Là, il y aurait eu deux chiens. Donc là, il y a deux loups qui se sont rejoints, qui ont fait plus qu'une trace. Là, il y aurait eu deux chiens, il y aurait des petites traces de pattes un peu partout. Mais si on n'a qu'une empreinte, c'est vraiment très difficile de distinguer une patte de loup d'une patte de gros chien, par exemple. Il y a les restes de proie également, parce que le loup a une façon un petit peu particulière de consommer ses proies. Il a une puissance dans la mâchoire vraiment exceptionnelle, et ça lui permet de broyer des os notamment. Donc on va retrouver des côtes broyées, et puis il va retourner aussi la peau sur les pattes, donc on dit en chaussettes. C'est une technique assez spécifique du loup, et ça peut être aussi une façon d'observer, de déterminer en tout cas si la proie a été tuée par le loup ou par des chiens. Il y a également la mesure des crocs quand le loup attaque plutôt à la gorge, mais le chien peut le faire aussi, et la mesure de la taille des trous laissés par les crocs est aussi une technique des agents de l'OFB pour vérifier loup ou chien. Après, quand on retrouve une proie qui a plusieurs jours et qui a été consommée par plein de charognards, c'est évidemment très compliqué de savoir. Je regarde l'heure, parce que je suis toujours un peu bavarde, alors j'espère que voilà, je suis à peu près dans le temps. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a compris comment l'espèce fonctionne et comment elle arrive chez nous, les soucis que ça pose. Essentiellement, les soucis liés au régime alimentaire, ben, ça va être les attaques sur les troupeaux, donc problème avec le milieu de l'élevage. Quelques soucis aussi avec le milieu de la chasse. Il y a du braconnage de loups en France, ça on le sait. Qui dit braconnage est forcément dit que c'est compliqué d'avoir les chiffres, mais nous on estime que l'évolution de la population, qui est normalement de 20% par an dans des territoires colonisés, en France on est très en dessous de ce chiffre, et on pense que le différentiel vient que malheureusement il y a beaucoup de braconnage et forcément de loups qu'on ne retrouve pas. Et puis il y a toujours cette histoire des peurs, des légendes qui font qu'on est réticent, qu'on connaît mal l'espèce. Et quand on connaît mal l'espèce, eh bien, ça induit forcément des conflits. Problème aussi, je vous ai parlé tout à l'heure du statut de protection du loup, mais avec des dérogations en France, que ne font pas forcément nos voisins européens, parce que ne font pas nos voisins européens. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on est face au milieu de la chasse et au milieu agricole à des lobbies qui sont très puissants et qui ont leur relais auprès du milieu politique. Alors, par exemple, les dernières polémiques en date, ce sont le milieu de l'agriculture et puis les politiques qui ont repris, qui ont pris le relais. C'est en fait, on nous ment, il n'y a pas 620 loups en France, il y en a 1000, il y en a 1500, il y en a beaucoup plus que ça. Et l'OFB a été attaqué par de nombreux élus sur sa capacité à compter le loup. En fait, la technique de l'OFB est très fiable, elle est même enviée par beaucoup d'autres États. Mais il a fallu que ce service de l'État se défende contre des élus de la République pour dire qu'il fait bien son boulot. Parce que s'il y a plus de loups, ben on pourra en tuer plus. Il y a aussi du matériel qui est mis à disposition de chasseurs. C'est, que je ne vous dise pas de bêtises, mais je crois que c'est en Haute-Savoie. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été mis à disposition des chasseurs. Je crois que c'est 240 000 euros pour qu'ils achètent du matériel de suivi de loups. C'est-à-dire des caméras infrarouges, des pièges photos, etc. Alors que les chasseurs n'ont pas spécialement à faire du suivi de loups. On préfère autant qu'ils ne sachent pas trop où sont les loups. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'argent qui peut être mis à disposition d'acteurs dont on n'est pas sûr qu'ils veulent vraiment que du bien à l'espèce. Et tout ça, ça crée une opposition assez forte, alors ciblée, parce que globalement, la population française, que ce soit des gens qui habitent en zone à loup ou ours ou lynx ou des citadins, est favorable à la présence de ces prédateurs. Hein. On nous objecte souvent que ce sont les gens des villes qui aiment bien les loups. D'abord, les protecteurs des loups n'habitent pas tous en ville. Mais quand on fait des sondages, ou quand il y a des sondages nationaux qui sont faits, il y a 75% de la population française, globalement, qui est favorable au retour de ces espèces sur son territoire. Mais ça peut être quand même des violences ponctuellement, enfin des oppositions ponctuellement assez fortes et voire même violentes. Peut-être que vous avez vu le film Marche avec les loups. Alors, il y a d'abord eu La Vallée des loups, puis Marche avec les loups par Jean-Michel Bertrand. Quand il a voulu faire une projection en 2020, c'était au mois d'août, à Tende, eh bien, des opposants aux loups sont venus, ont mis la pagaille dans la salle, la projection a dû être arrêtée, les gendarmes ne sont absolument pas intervenus, pourtant ils étaient là. Donc il y a des fois des situations compliquées, ça va même jusqu'à des menaces de mort hein, sur certains militants pro-loups. Et puis je vous parlais du braconnage aussi, qu'on ne peut évidemment pas mesurer. Vous vous souvenez peut-être aussi, ça avait fait la une des journaux, d'une louve qui a été retrouvée pendue devant la mairie d'une commune dans les Alpes. Donc pourquoi ça pose des soucis avec le milieu pastoral? Donc on s'en doute, hein, le loup a disparu, donc forcément les méthodes ont changé. Il y avait moins de gardiennage des troupeaux plus grands aussi parce que c'est une filière, la filière ovine, qui économiquement se porte pas très bien. Donc quelquefois il faut agréger plusieurs troupeaux pour que ça soit financièrement intéressant. La viande qu'on mange en France, bien souvent c'est pas de la viande française, a priori c'est plutôt de la viande de Nouvelle-Zélande ou d'Angleterre. Donc il y a la concurrence de cette viande étrangère, globalement une baisse de consommation de cette viande. Donc voilà, beaucoup de problèmes économiques sur cette filière. Et puis on va pas nier quand même qu'effectivement il y a une problématique réelle d'attaque qui est difficilement vécue, sans doute, par les éleveurs. Même si les troupeaux sont faits pour être mangés un jour et partir à l'abattoir. Mais c'est leur outil de travail, et évidemment, c'est difficile pour eux de voir cet outil de travail attaqué par le loup. Alors moi, j'aime bien cette phrase en fait, de Jean-Marc Landry, je vous en reparlerai un tout petit peu après, mais c'est vraiment ça. La goutte qui fait déborder le vase. En fait, c'est une filière qui a plein de problèmes, et le loup arrive par là-dessus. Il ne crée pas tant de dégâts que ça, on va voir ça, mais ça devient insupportable parce que c'est le problème supplémentaire qui se pose. Donc les dommages sur les troupeaux, alors il y a 7 millions, je ne sais plus si je l'ai mis sur la slide d'après, mais il y a 7 millions d'ovins en France. En 2021, 4 000 animaux tués, donc forcément en pourcentage c'est ridicule. Mais ça reste vécu comme un traumatisme par les éleveurs et puis par la presse qui en fait ses choux gras à chaque fois que des moutons sont tués. Pas que des moutons, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelquefois, il y a un gros titre, le loup a tué un chamois à côté de tel village. Ah bon, le loup mange des chamois. Tiens, il y a vraiment des relais dans la presse qui sont étonnants, mais qui contribuent à alimenter cette idée que le loup décime les troupeaux. Et ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que trois quarts des éleveurs n'ont subi qu'une ou deux attaques, et qu'en fait, le gros des attaques se concentre sur certaines exploitations, peut-être parce qu'elles ne sont pas suffisamment protégées ou parce qu'elles sont dans un secteur où la protection est difficile et où la vie des moutons également est difficile. Oui, il y a eu une chute. Alors, en 2020, ça avait vraiment explosé. Et en 2020, il y a eu une chute. Alors, peut-être, globalement, quand même, une meilleure protection des troupeaux dans les secteurs impactés. Possible. C'est une des pistes. Le nombre de loups n'a pas n'a pas baissé. Hein, il a continué à croître, moins qu'il ne le devrait, mais il a continué à croître. Donc, voilà. Il y a eu une baisse, effectivement, en 2021, ce qui est intéressant. On peut supposer que c'est une meilleure protection des troupeaux. J'ai dit le chiffre un petit peu en avance, mais il y a effectivement beaucoup de moutons en France et finalement, en pourcentage, un faible nombre qui sont attaqués par du loup. Alors indemniser au motif du loup, on le reverra aussi, mais quelquefois, on le disait tout à l'heure, c'est difficile de déterminer si c'est une attaque chien ou loup. qu'au général, on indique loup de manière à ce que l'indemnisation puisse se mettre en place. Mais il y a énormément d'autres causes de mortalité. Il y a des épizooties. Les moutons peuvent se blesser. Quand ils se blessent, il y a une mouche qui a la spécialité. Alors, elle a un nom terrible, c'est la Wolfartia Magnifica, quelque chose comme ça. Elle vient pondre dans les blessures des moutons et ça finit par les tuer. Il y a quelquefois des dérochements. Donc ça veut dire quand le troupeau est installé hein, vraiment au bord de la falaise et puis qu'il est inquiété par quelque chose, ça peut être un grand prédateur. Quelquefois, il est arrivé que ce soit aussi des vététistes, des chiens. Une année, je me souviens, c'est les hélicoptères de l'armée en manœuvre qui avaient frayé un troupeau. Et puis les chiens errants également. Alors, chiens errants. En France, on n'a pas réellement de chiens errants, de chiens retournés à l'état sauvage, mais c'est le chien de la ferme d'à côté. Quand j'ai gardé des chèvres dans le Mercantour, j'ai eu ce souci-là. En fait, c'était le chien de l'élevage d'à côté qui venait mettre la pagaille dans le troupeau. Et puis la mortalité en alpage, loup ou pas loup, est malheureusement relativement importante. Donc voilà pourquoi on en vient à dire que le loup est plutôt un révélateur des difficultés de la filière ovine. Avant que le loup n'arrive, la filière ovine avait tous ces problèmes dont on vient de parler, mais on n'en parlait pas. Et quand le loup est arrivé, ça a été aussi une occasion, alors toujours hein, sans nier la difficulté que ça représente pour les éleveurs, pour les bergers, mais ça a été quand même une occasion de mettre en lumière les difficultés de leur métier, de leur filière. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'État quand le loup est arrivé? On a commencé, alors déjà ce n'était pas du tout anticipé, hein, quand le loup est arrivé en 92 dans le Mercantour, ça a été un petit peu difficile à gérer. Mais d'abord, ça a été l'idée de « on indemnise les dommages ». Donc voilà la façon dont ça se passe, on fait un constat, donc ce sont les agents de l'OFB en général ou des personnes assermentées qui vont vérifier si c'est du loup, si c'est pas du loup. Donc voilà, si c'est peut-être du loup mais qu'on n'est pas sûr, on indemnise au titre loup non écarté. Il y a un petit schéma, hein, vraiment il y a tout un protocole à suivre. L'indemnisation concerne également les pertes indirectes, donc les pertes directes ça va être les animaux qu'on a retrouvés effectivement morts, et puis les pertes indirectes ça va être le stress, ça va être par exemple des avortements provoqués par le stress de l'attaque du troupeau, les soins vétérinaires également qui peuvent être apportés aux animaux blessés, etc. Donc là, j'ai mis un exemple, une brebis attaquée par un loup, ça va être à peu près 150 euros. Un bélier, c'est dans les 350 euros. Enfin, il y a tout un barème aussi en fonction de l'animal qui est tué, bovin, équidé, etc. Progressivement également, donc l'État a pris en charge les moyens financiers de protection, hein, on en parlait tout à l'heure. Donc les moyens de protection, ça va être de payer des aides bergers, de financer la pose de clôture et de financer les chiens de protection, pas les chiens de conduite mais les chiens de protection, donc l'achat du chien, les soins vétérinaires, de l'alimentation également. C'est une prise en charge financière qui peut aller jusqu'à 80%, voire 100% sur certains cas spécifiques. Et donc maintenant, depuis le dernier plan loup, on parle de non plus de zonage, mais de cerclage. Donc si vous êtes en cercle 3, c'est que vous êtes un éleveur dans une zone où il y a vraiment beaucoup de loups, et là vous obtenez des moyens, une prise en charge plus importante des moyens de protection, jusqu'au cercle 3, qui est une zone où le loup potentiellement peut revenir parce qu'il est dans le secteur pas loin, et là on a une prise en charge pas moindre, mais soit sur les chiens, soit sur un diagnostic de vulnérabilité du troupeau. Voilà. Je ne vous fais pas le détail de tous les cercles, mais on pourra y revenir après si vous voulez. Mais c'est extrêmement cadré. Il y a un arrêté ministériel qui précise tout ça et c'est vraiment cadré. Et puis il y a des crédits d'urgence quand il y a des attaques qui sont dans une zone nouvelle également. La réponse institutionnelle aussi, ça a été de créer le réseau Loulinx, donc on en a déjà parlé, hein, les agents de l'Office français de la biodiversité, c'était l'ONCFS auparavant, qui font le suivi et les constats. Il y a un groupe national loup qui a été organisé, donc participent l'État, des représentants des filières agricoles, des représentants du milieu associatif et puis des scientifiques. Enfin, voilà, il y a tout un panel de personnes qui participent à ce groupe national qui, à l'intérieur, propose aussi des travaux en groupe technique sur la question du pastoralisme, sur la question des chiens et du suivi, etc. Il y a un préfet coordinateur qui a été nommé. Donc maintenant, c'est le préfet de la région Aura, donc qui est responsable pour toute la France de la question du loup. Et puis localement, il y a des comités départementaux qui se mettent en place au fur et à mesure que le loup arrive dans certains départements. Donc moi, par exemple, j'habite dans le Loiret. L'année dernière, la DDT, la préfecture du Loiret, a organisé une réunion à laquelle on a été invité, ainsi que les représentants de la filière ovine, les chasseurs, d'autres personnes, pour commencer à anticiper le retour du loup dans le département, ce qui est plutôt une chose intéressante. Et puis, il y a ce fameux plan national d'action. Alors, ça fait plusieurs années qu'il y a des plans d'action qui sont édités, hein, produits par l'État, pour gérer le loup, puisqu'en France, on aime bien gérer la nature, et qui propose plusieurs actions, avec certaines qui sont assez, nous, on a trouvé intéressantes, donc c'est le petit plus. On se dit qu'on va étudier l'efficacité des moyens de protection, qu'on va, par exemple, aussi améliorer la filière des chiens de protection, parce que pour le moment, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des chiens pas forcément bien éduqués, qui ne viennent pas de très bonnes filières. Améliorer les connaissances sur le loup, ça va dans le bon sens. Conditionner la mise en place de moyens de protection des troupeaux pour être indemnisés, ça va aussi dans le bon sens. Seulement, en revanche, nous constate sur le terrain que ça ne fonctionne pas. Par exemple, là, sur le massif pyrénéen, j'ai repéré, je fais la veille pour mes collègues qui sont sur les Pyrénées, du recueil administratif de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Et il y avait un arrêté préfectoral, ce sont les préfets qui ont la main, demandant un tir de loup. Et dans l'arrêté, il est indiqué que les moyens de protection étant mis en œuvre, on demande un tir de loup. Donc j'ai envoyé ça, les copains qui sont sur place sont allés voir, et en fait, il y a des troupeaux de moutons, certes, mais il n'y a pas de chiens, il n'y a pas de berger, il n'y a pas de clôture. Donc la conditionnalité, c'est une bonne idée, mais il faudrait l'appliquer sur le terrain. Et ce qui ne va pas du tout, c'est que ce plan national poursuit l'idée qu'il faut des dérogations à la protection juridique du loup et qu'on peut organiser des tirs, et surtout a établi un seuil de viabilité de l'espèce de 500 loups en 2023. Donc c'est demain. On a vu qu'on avait déjà dépassé ce chiffre, hein, 620 loups à peu près en France, ce qui veut dire que on pourrait supposer qu'en France, il n'y aurait jamais plus de 500 loups et qu'à partir de ce seuil, on élimine un peu tout ce qui dépasse. Donc nous, évidemment, ça ne nous convient pas, Association de protection de la nature, mais on n'est pas les seuls. Les scientifiques, le Muséum national d'histoire naturelle et l'OFB également ont sorti une étude en 2017 indiquant que les tirs de loups, je crois qu'on y revient après, ont déjà un effet absolument négatif sur la population, mais surtout que le territoire français pourrait accueillir beaucoup plus de loups que ça, 1500, 2000, 3000, et surtout pour la viabilité de l'espèce et le brassage génétique, 500 loups, ça ne suffit absolument pas. Donc nous, on a bataillé contre ce plan national d'action, mais nous n'avons pas réussi à lutter contre les tirs de loups. Donc chaque année, depuis 2004, il y a des tirs de loups. Et là, en 2020, il y a cet arrêté qui a fixé les différents tirs possibles. Normalement, on commence par un tir d'effarouchement, c'est-à-dire des bruits, des balas blancs, des balles en caoutchouc pour faire fuir le loup. Dans les fêtes, c'est très rarement utilisé. Ensuite, on passe par un tir de défense simple, c'est-à-dire que si le troupeau est protégé, mais qu'il y a quand même des attaques, ou qu'on estime qu'il ne peut être protégé. Alors ça, c'est une définition aussi un petit peu compliquée à appréhender. Qu'est-ce qu'un troupeau ne pouvant pas être protégé? À ce moment-là, on passe sur un tir de défense simple qui peut être effectué par l'éleveur, par le berger, ou par quelqu'un qui a le permis de chasse, par des chasseurs. Si ça ne suffit pas, il y a une graduation, on passe au tir de défense renforcé. Alors le tir de défense simple peut être létal, hein, déjà, d'ores et déjà. Même s'il n'y a pas eu d'attaque sur le troupeau, on peut déjà estimer qu'il y a un danger potentiel parce que loup dans le secteur, si un loup approche même sans attaquer, on peut déjà effectuer le tir. Tir de défense renforcé, donc là, c'est la graduation au-dessus, jusqu'au tir de prélèvement, où là, on y va vraiment dans l'objectif de tuer un loup. Et là, c'est encadré par l'Office français de la biodiversité. Donc, je vous le disais, c'est des chiffres, même l'OFB trouve que c'est énorme. 19% de la population de loups, d'après les textes, hein, d'après l'arrêté, peuvent être tués en France. Alors, on a un peu l'impression que l'État voit ça comme un plafond à atteindre. alors que c'est normalement un maximum, mais ils s'emploient chaque année à atteindre ce plafond. Et alors j'aurais dû mettre mon chiffre à jour parce que depuis le 31 mai, il y a un autre loup qui a été abattu encore par des tirs officiels qu'on a essayé de combattre auprès du Conseil d'État, hein, Férus, avec d'autres associations, mais nous nous sommes fait débouter là tout récemment. Voilà, donc ces tirs de loup, c'est pas une solution. Et il n'y a pas que nous, il y a aussi donc, cette fameuse étude de l'ONCFS et du Muséum de Paris qui le disent. Ça déstructure la meute. Donc on a vu tout à l'heure, une meute, quand elle est en groupe, elle peut chasser des grosses proies, donc des ongulés, des cerfs, des chevreuils, des chamois. Quand on déstructure la meute parce qu'on a tué le loup alpha, elle va se disperser et les individus tout seuls, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont aller chasser des proies faciles, et la proie facile, qu'est-ce que c'est? C'est le mouton. Donc en général, il y a des reports d'attaques sur d'autres exploitations et voire même des augmentations des attaques. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien puisque le territoire sera réoccupé par une autre meute, même si on arrive à l'éradiquer d'un endroit. Alors une fois qu'on a dit tout ça, que ce n'est pas bien gai, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Alors dans le milieu associatif ou autre, il y a... Moi, j'ai identifié différentes pistes. Il y a les études, il y a la communication et puis il y a la protection des troupeaux, bien sûr. Alors, sur les études, c'est vrai que finalement, on connaît quand même assez peu cet animal. En France, en tout cas, il n'a pas forcément été bien étudié. Il n'est pas là depuis très longtemps et on ne sait pas forcément bien comment il interagit avec, avec les troupeaux ou avec le gibier sauvage. Donc il y a certainement encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors il y a notamment l'IPRA qui travaille dessus. Donc l'IPRA, c'est... le sigle ne signifie pas exactement ce que ça veut dire derrière, mais c'est un institut pour l'amélioration de la relation loup-élevage et qui étudie notamment... par des films nocturnes, les attaques de loups sur les troupeaux. Donc Jean-Marc Landry, qui pilote cet institut, il est suisse, spécialiste du loup, c'est un éthologue, et il a fait déjà beaucoup d'observations intéressantes par tous ces films. Il travaille aussi sur la question des chiens, comment le chien de protection interagit avec les troupeaux. Donc il y a des tas de films qu'on peut assez facilement trouver, soit sur leur site, soit en ligne. On se rend compte que quelquefois, par exemple, il y a un loup qui passe à côté d'un troupeau de nuit, et puis on voit que le troupeau s'affole pas du tout, que le loup passe à côté, qu'il en a absolument rien à faire, et puis peut-être le lendemain, il y aura une attaque, et on ne sait pas pourquoi tel individu n'attaque pas, et tel autre individu va attaquer. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre sur le terrain, et c'est ce que dit aussi un petit peu, j'ai pas résisté au plaisir de faire la pub du livre de Baptiste Morisot, Les diplomates. C'est son propos aussi, c'est comment on se met dans la peau du loup. Donc c'est un petit peu ce que faisaient les Indiens qui chassaient le bison. Comment on se met dans la peau du loup pour comprendre comment il fonctionne. Et une fois qu'on comprend comment il fonctionne, eh ben on pourra mieux adapter notre gestion, la gestion de nos activités humaines, à son fonctionnement à lui, qui lui ne va pas forcément, qu'il ne va pas forcément faire évoluer. Donc à nous de jouer ce rôle de diplomate entre le loup et les activités humaines et réfléchir et comprendre. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre, il est extra. Il y a les actions de communication et de sensibilisation comme on peut le faire aujourd'hui, comme on fait en intervenant dans les écoles, et puis avec des programmes d'éco-bénévolat dont je vais vous parler juste après. Et puis bien sûr, agir, parce que c'est quand même le nœud du problème, sur la protection des troupeaux. Traditionnellement, on dit qu'il faut trois choses pour protéger correctement le troupeau. Il faut les chiens de protection, il faut des clôtures et il faut du gardiennage humain. Quand on met ces trois choses en place, on a de vraies bonnes chances pour que la prédation baisse très 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 fortement. Elle ne baissera jamais complètement. Le loup est malin, s'il y a une faille, il la trouvera. Mais en tout cas, quand ces trois éléments sont mis en place, on note des résultats vraiment intéressants en termes de baisse de la prédation. Je vais aller assez vite. Les parcs, les clôtures, donc il s'agit d'avoir des clôtures électrifiées assez hautes, parce que le loup, si vous avez une clôture de la taille de la table, il s'en fiche royalement, il va sauter par-dessus. C'est intéressant pour protéger le troupeau, ça a quelques inconvénients, c'est qu'il faut les déplacer régulièrement, sinon on a des risques d'érosion, de surpâturage, d'où la nécessité d'avoir aussi le berger pour accompagner ça. Donc les bergers présence nécessaire également. Alors j'ai mis un article qui est paru récemment sur le site du Pèlerin. Alors c'est une petite provoque, mais pas tant que ça. En fait, ce berger explique que sa profession était vraiment déconsidérée, que d'abord on employait de moins en moins de bergers et d'aides bergers en France pour les raisons économiques qu'on a vues tout à l'heure. Ça coûte cher, la filière n'est pas rentable économiquement, elle vit beaucoup de subventions, donc employer un berger c'était compliqué. Et puis finalement, depuis que le loup est arrivé, on a vu la même chose avec l'expansion de la population d'ours sur les Pyrénées, on a redonné une nouvelle vie à ce métier de berger et d'être berger et une nouvelle reconnaissance. Et finalement, ce sont des nouveaux emplois qui sont créés et qui sont financés avec l'argent mis à disposition du loup. Donc voilà, de temps en temps, un témoignage positif de berger, ça fait plaisir, mais c'est pas si rare que ça, on en trouve assez régulièrement. Et sur les chiens, donc... Il y a les montagnes Pyrénées, les patous, hein, qu'on connaît bien, d'autres races, le berger d'Anatolie, le marème des Abruzzes, ils ont tous à peu près la même morphologie, des chiens assez costauds, le front rond, les oreilles rondes et tombantes. Et ils vont avoir vraiment une éducation particulière, c'est-à-dire qu'ils sont élevés avec les moutons, ça peut être avec les vaches, ça peut être avec d'autres espèces de bétail domestique, et vont quasiment se considérer comme un individu équivalent de ces autres, comme un membre de la famille. Et donc forcément, ils vont protéger et attaquer dès qu'ils vont sentir une menace. Donc la menace, ça peut être le loup, mais ça peut être aussi un chien, ça peut être l'ours évidemment, ça peut être aussi des touristes qui... s'approche un petit peu trop près du troupeau, et à ce moment-là, il va y aller, il va aboyer et s'interposer. Une fois qu'il a vu que le danger est écarté, il repart dans le troupeau. Et plus le troupeau est grand, plus il faut de chiens. Alors, ce qui pose la question, nous, en région centre, en zone de plaine, comment on va faire? Parce que c'est pas du tout le même fonctionnement des troupeaux. On n'a pas des troupeaux de 1000-1500 brebis. C'est des plus petits lots dispersés sur plusieurs parcelles. Donc là, il va falloir qu'on invente de nouvelles choses. Alors, il y a déjà des mesures qu'on met en place pour les mesures d'urgence. Quand un loup arrive sur un territoire qui commence à y avoir des dégâts sur des troupeaux, on peut installer les fladries, c'est simplement des rubalises qu'on installe sur les clôtures, qui vont bouger avec le vent et que le loup va trouver un petit peu bizarre, un peu inquiétant, et qui va faire qu'il ne va pas s'approcher. Ça va durer qu'un temps, le loup est malin. Dès qu'il va se rendre compte au bout de quelques jours ou quelques semaines que finalement les petits rubans qui bougent, là c'est pas bien méchant, il va continuer à s'approcher. Donc on peut mettre en place d'autres techniques, par exemple les Fox Lights, qui sont des lumières, des spots, qui s'allument de manière aléatoire. Comme ça. Donc pareil, pour le loup, une lumière bizarre qui s'allume de temps en temps, c'est quelque chose qui peut être potentiellement un danger et qui va essayer d'éviter. De la même façon, il va s'habituer assez rapidement. Donc il faut qu'on invente des nouvelles techniques. Il y a des choses, des études sur les odeurs, sur les sons également. Voir comment nous, on peut aussi, avec les associations, travailler sur les zones de plaine, sur les mesures d'urgence notamment, pour aller dépanner les éleveurs quand ils ont des attaques et qu'ils ne sont pas du tout préparés. Parce que l'anticipation, ce n'est pas du tout notre fort en France sur ce sujet. Alors par exemple, je vous parle de Pastor à loup, qui est un programme d'éco-bénévolat de notre association, qui commence à faire des petits en Suisse. Hein, il y a une association qui est venue voir comment on fonctionnait et qui a reproduit le système. Donc on a des bénévoles qui chaque année sont formés. Donc là, ils ont eu un stage en mai-juin, sont formés. On ne devient pas berger en une semaine. Donc on est sensibilisé à la question du loup, à la question du pastoralisme. Il y a des agents de l'OFB, des éleveurs qui viennent pendant une semaine discuter, échanger. Et puis après, le bénévole part en estive aider le berger ou l'aide-berger à garder le troupeau. Donc on reste à côté du troupeau, nuit et jour, pour assurer une présence humaine permanente, puisque le loup n'aime pas trop l'humain, hein, il n'aime pas trop le bipède que nous sommes, ça l'inquiète et donc il va beaucoup moins s'approcher s'il y a une présence humaine renforcée. Ça permet aussi potentiellement au berger d'aller faire un petit peu autre chose de temps en temps, de se reposer également. C'est un programme que l'association a créé assez rapidement parce qu'on s'est vite rendu compte que si on était dans la confrontation, avec le milieu de l'élevage, on ne s'en sortirait pas. C'est eux qui ont l'écoute des élus, c'est eux qui ont aussi les fusils éventuellement pour tirer sur les loups, et qu'il valait mieux dialoguer et tendre la main. Donc c'est pas en envoyant quelques dizaines d'éco-bénévoles par an qu'on va régler les problèmes d'attaque sur les troupeaux, mais c'est aussi un espace de dialogue. Nous, on dit, on est content que le loup revienne, on est conscient des difficultés que ça vous pose, alors ben voilà, on va venir discuter avec vous, mettre les mains dans le cambouis et voir comment ça se passe sur le terrain. Cela dit, c'est quand même efficace, puisque ça évite aussi les attaques. Donc voilà une des actions possibles, aller aider le haut gardiennage des troupeaux, et puis les chantiers d'aménagement pastoraux, tout à fait aussi dans le cadre pastoral loup, bah, c'est aider un éleveur à installer une clôture, à retaper une cabane de berger. Donc ça, ce sont des choses que potentiellement on pourrait proposer en zone de plaine, sur les zones de colonisation nouvelle de loups. On a cette expertise-là, alors on n'a pas des moyens humains gigantesques, mais on a des bénévoles qui sont vraiment engagés. On a cette possibilité-là de proposer un coup de main, au moins de dépannage, aux éleveurs d'aller planter notre tente à côté du troupeau s'il y a eu une attaque, et puis les aider à installer des clôtures toute autre chose dont ils auraient besoin. Et puis tout à l'heure, je parlais de communication dans les actions qui sont à mener. Mieux on connaît une espèce, mieux on sait comment elle fonctionne, moins on en a peur et plus on règle les conflits. Donc on a d'autres programmes d'éco-bénévolat, plusieurs paroles d'eux. Donc on l'a décliné autour du loup, de l'ours, du lynx et puis des chiens de protection également. Où là, les bénévoles vont partir bientôt, en juillet-août, dans les zones touristiques, pour distribuer beaucoup de documentation, des plaquettes, d'informations sur ces trois espèces, sur la cohabitation. On va inonder tous les sites touristiques de la région. Au fil des ans, maintenant, on nous réclame des plaquettes. Quand on arrive, on nous dit « Ah ben ouais, j'en ai plus, il faut nous en redonner ». Et en même temps, on va sur les marchés, on a un questionnaire. Et on pose à peu près chaque année les mêmes questions, histoire d'avoir une image de l'évolution dans le temps des réponses. On demande aux personnes qui soient habitants ou qui soient touristes sur le secteur, quelle est leur perception de la présence du loup ou de l'ours ou du lynx sur leur territoire. Est-ce qu'ils pensent que c'est une chance économique? Est-ce qu'ils en ont peur? Est-ce qu'ils pensent que ça va faire disparaître le bétail, etc. Et on échange et on se rend compte que dans les trois quarts des cas, les réponses sont plutôt positives et favorables à la présence des grands prédateurs, donc ce qui est plutôt rassurant. En tout cas, ce sont des programmes qui fonctionnent bien et pareil, qui montrent une volonté de dialogue et d'échange et qui est quelque chose d'important.
Between the striking and the